Les Canuts, troisième partie, chapitre 4. Il y avait 3 semaines que l'interdit durait, dévorant les économies des uns, affamant les autres. Beaucoup de pères de famille, ayant épuisé leurs dernières ressources, demandaient à remonter leur métier. Mais les organisateurs de la grève les menaçaient de nouvelles violences s'ils reprenaient le travail. Pellegrin se signalait parmi les plus ardents. Le jour, il parcourait les places, les rues les plus fréquentées, allant de groupe en groupe, de rassemblement en rassemblement. Les ouvriers passaient leur journée dehors, ils n'avaient pas le courage de rester à la maison, devant leur métier silencieux. Le soir, l'ami de Despinasse parcourait les cabarets, embauchant des recrues, échauffant les tièdes, s'efforçant d'exciter encore les plus acharnés. Ce matin-là, il s'était dirigé vers la place de la Croix-Rousse. Au soleil de mars, la neige tombée les jours précédents fondait peu à peu. C'était partout des flaques d'eau et de boue, à travers lesquelles piétinaient des ouvriers, réunis par groupes, l'air découragé, l'allure lassée. Des exclamations partaient d'un rassemblement. Des répliques se croisaient, violentes. Sûr de trouver là des passions à exploiter au profit de la révolte, Pellegrin s'approcha. D'une voix lamentable, Pétrus Salavin, le petit rouge, plus hâve que jamais, dans sa barbe rousse clairsemée, se plaignait amèrement de la dureté des meneurs qui l'empêchaient de travailler. « J'ai une femme et 5 enfants, s'écria-t-il, dont l'aîné n'a que 9 ans. C'est tout juste, si je pouvais leur donner du pain à leur sou, quand la fabrique marchait bien. Souvent même la bourgeoise était obligée de cacher la miche quand les gosses mangeaient trop. Eh, bon Dieu de misère, comment voulez-vous que je résiste au chômage ?» Et, l'air dolent, il regardait autour de lui, sans honte de dire sa pauvreté. « Quand la neige est tombée, reprit-il, je me suis embauché à 20 sous pour balayer les rues. Le soir, nous avions chacun 3 ou 4 pommes de terre à manger. Ça nous soutenait. Mais à présent que la neige fond, la voirie n'a plus besoin de mes bras. Comment veut-on que je fasse? Ma femme se désole. Les gosses pleurent. Crient la faim. Non, le chômage a déjà trop duré. Il faut qu'on reprenne le travail. Est-ce de la liberté de sortir le pain de la bouche au pauvre monde? Sombre, la tête basse, les autres ouvriers l'écoutaient, hochant la tête. Au fond, ils étaient de son avis. Un jour ou l'autre, ils allaient crever de faim. 2 ou 3 seulement discutaient. Il fallait patienter encore. Les mots qu'ils enduraient serviraient peut-être à leur faire rendre justice. Mais ils parlaient sans conviction. Sans grands efforts, ces hommes se seraient laissés ramener à leur métier. Pellegrin le comprit. Lui qui, soudoyé par la caisse du parti, vivait dans une aisance relative, crut opportun de relever leur courage et d'imposer silence aux lâcheurs qui amollissaient ses camarades. Il pénétra jusqu'au milieu du groupe. « Qui est-ce qui parle de reprendre le travail ? Cria-t-il. « Où est-il, ce lâche ?» Le dos cambré, il fixait d'un œil dur le petit Rousseau. Mais lui s'avança d'un pas. « C'est moi, celui que tu appelles lâche. On n'est pas lâche, parce qu'on demande à travailler. Je me fiche du reste, moi, pourvu que mes enfants aient du pain. Alors, tu es un vendu. Tu vas lécher les bottes des fabricants. Il faut que tu sois payé cher, tout de même, pour parler de reprendre la navette. J'espère bien que ce jour-là, les camarades t'enfonceront les côtes. » Le petit Canut, blême de colère, le regarda dans les yeux. « C'est toujours pas toi qui me les enfonceras. Je suis pas si long que toi, grand dépendeur d'andouille. Mais je te roulerai quand même. » Tiens, jette ça, moi ! Clama-t-il en frappant du plat de la main sur ses maigres biceps.
Ce n'est toujours pas toi qui me tomberas, feignant !
Repartit Pellegrin avec un regard de mépris. Feignant ? Petrus Salavin s'était laissé injurier, traité de lâche et de vendu, sans que le sang lui fût monté à la face. Mais lui, un feignant ? Feignant, lui qui, de son travail, nourrissait 7 personnes ? Feignant, lui qui balayait la neige, pour gagner de quoi vivre quand les métiers ne battaient plus ?
Ah, c'était trop fort !
Une poussée de colère lui montait au cerveau, le grisait. Les poings en avant, il se jeta sur celui qui l'avait souffleté de cette injure. Pellegrin ne s'attendait pas à cette agression. D'ordinaire, les résistances qu'il rencontrait se bornaient à des engueulades. Mais il ne pouvait reculer, malgré l'ennui de se battre. On lui montrait du doigt. Il fallait faire contre mauvaise fortune bon cœur. Parant du coude un coup droit que lui portait le compagnon, il lui envoya à la volée un coup de masse qui ne fit que lui enlever sa casquette. Le petit canu ne reculait pas d'une semelle, se défendant de son poing gauche, attaquant de son poing droit, qui touchait souvent, avec un bruit mat, la poitrine ou le ventre de son adversaire. Autour d'eux, on faisait cercle, quelques-uns s'amusant de la bataille, personne ne prenant parti, ni pour l'un, ni pour l'autre. À la fin, Pellegrin s'impatienta. À son gré, la lutte durait trop, il voulut en finir. Se tournant brusquement, de toute sa force, il envoya un coup de pied brisé en arrière, pensant étendre à terre le petit roux en lui crevant l'estomac de son talon. Mais Salavin fit un saut de côté et, tremblant de fureur, cria.
« Ah, tu veux ruer, mauvaise bête !
Attends, attends !» Et lui sautant aux hanches, d'un effort désespéré, il le jeta à terre et roula sur lui. Ruisselant de sueur, ébouriffé, désespérément, ils luttèrent parmi les flaques d'eau, les tas de boue et de neige fondante qui les souillaient. Se serrant à s'étouffer, se mordant avec rage lorsque leurs faces se rencontraient. Aucun des deux n'avait l'avantage. Leur force était égale. Le petit canu avait le nez en sang, le cartilage entamé par un coup de dent. Pellegrin, le col déchiré, montrait sa poitrine nue écorchée de coups d'ongles, des staphylades sanglantes, rouges sur la peau blanche. L'un des deux allait être éreinté. Des employés de l'octroi, de service à la porte de la Croix-Rousse, d'abord amusés par cette rixe, intervinrent, voyant qu'elle tournait au tragique. Non sans peine, ils séparèrent les deux adversaires et les firent emmener l'un d'un côté, l'autre de l'autre, par les ouvriers qui se trouvaient là.
« Je te retrouverai, grand salaud !» cria le petit rouge. « J'aurai ta peau ! Aussi vrai que je m'appelle Petrus Salavin !»
Et il s'éloigna du côté de la grande rue, entraîné malgré lui, retenu sous les bras par des camarades, qui l'empêchaient de se ruer de nouveau sur son ennemi, tandis que Pellegrin allait vers les pierres plantées, provoquant encore, d'un rire mauvais, le petit rouge qui criait toujours et essuyait sa boue. De toutes parts, attirés par le bruit de la querelle, des ouvriers étaient accourus. Martinon, La Chapelle et Marius, arrivant à la hâte, s'approchèrent du groupe. Ils apportaient une grosse nouvelle. 6 membres du comité exécutif des mutuellistes, dénoncés comme instigateurs de la coalition contre la liberté du travail, venaient d'être arrêtés et allaient être poursuivis correctionnellement.
« Aussi, s'écria Martinon, est-ce qu'il y a du bon sens de violenter ces pauvres bougres qui crèvent de faim ?»«
Parbleu, fit La Chapelle. Il n'y a qu'une chose qui m'étonne, c'est que les ouvriers se laissent persécuter, sans résistance, par des farceurs qui ont la prétention de les défendre et qui ne font que les exploiter au profit de leurs intérêts. »
Autour de lui, les ouvriers demeuraient silencieux et méfiants.
« Mes amis, reprit La Chapelle, ce soir, à la réunion des mutuellistes,
les initiateurs de la société vous proposeront la reprise du travail, et nous espérons que vous le voterez. »
Et, comme les ouvriers, indécis, semblaient se consulter, Martinon s'écria.
« Voyons, que voulez-vous en somme ?
Que la question des salaires soit résolue équitablement ?
En acceptant l'interdit, vous avez cédé à un mouvement d'exaspération, mais vous n'avez pas voulu vous mettre en lutte avec le gouvernement.
« Non, non !» dirent quelques hommes.
« Pourtant, objecta Marius, monsieur de Gasparin ne s'est pas fait faute de nous provoquer. N'a-t-il pas dit aux fabricants « Tenez bon, il faudra bien que les canuts cèdent quand ils auront faim. S'ils se révoltent, j'ai sous la main des canons et des baïonnettes. »
« Qui est-ce qui t'a dit ça ?»
reprit brusquement La Chapelle.
« Ce sont vos écervelés des droits de l'homme qu'ils l'ont inventé pour vous faire perdre patience.
Ah, vous seriez bien avancé si on vous poussait à vous battre demain. »
« Si ce n'est pas demain, reprit Marius,
ce sera dans 8 jours, dans 15 jours, dans 1 mois.
Mais il faudrait y passer. C'est le seul moyen d'obtenir justice.
Autrement, ce serait toujours à recommencer. Quand on aura la République, ça changera.
Ah, j'en suis, moi !
Cria un ouvrier.
Je veux leur foutre une indigestion de balles à ces sacrés bourgeois.
Des regards s'allumèrent à ces mots. Sur ces figures pâles d'affamés, de mauvais sentiments se devinaient. La Chapelle haussa les épaules.
Des balles,
des fusils,
mais sacrebleu, où les prendrez-vous ? Votre caisse est vide.
« Où vous les avez pris aux journées de novembre ?»
interrompit Marius.
« Dans les casernes et dans les arsenaux. »«
Gamin !»
fit Martinon s'irritant. « D'abord, à quoi nous ont-elles mené, les journées de novembre ?»«
À rien. »«
À rien. »«
L'expérience est faite. Elle a été dure. »«
Et les choses ont bien changé depuis. » L'autorité a pris toutes les mesures pour éviter une nouvelle surprise. On a bâti des forts, quadruplé la garnison.
C'est vrai, reprit Marius.
Mais en novembre, les troupes ont marché résolument contre vous, tandis que cette fois, elles lèveront la crosse et acclameront la République.
Hein ? Tu rêves, mon garçon ?
À qui feras-tu croire ces bêtises ?
Je sais ce que je sais.
Insista Marius. La société fait chaque jour des recrues dans la garnison, et si les impatients ne précipitent rien, nous sommes sûrs de triompher, peut-être sans effusion de sang.
Athanase, Athanase, ah, quel tas de fous vous me faites dans votre société des droits de l'homme.
Attendez, attendez pour voir.
Oui, oui, nous verrons bien.
Je te prédis que, si nous avons fait une folie en novembre, vous allez en faire une 100 fois plus grande. Mais nous, qui n'avons à cœur que les intérêts de l'ouvrier, nous voterons ce soir, aux mutualistes, la reprise du travail. Et je suis sûr que nous aurons avec nous plus de 1500 sociétaires.
Au moment où l'on arrête 6 membres du comité exécutif ? Mais vous aurez l'air de capituler !
Ce n'est pas nous qui capitulerons. Ce sont les pauvres femmes et les pauvres enfants qui meurent de faim.
Tu ne penses pas à ça, toi, gamin. Tu n'as en tête que des songes creux.
Allons, viens-tu, La Chapelle ?
Lentement, les tisseurs s'éloignèrent à travers la neige fondue, et les ouvriers, discutant toujours, continuèrent à stationner au soleil, les pieds dans les flaques d'eau et de boue.